Aujourd'hui, nous allons parler de littérature à l'occasion de la réédition d'un ouvrage d'Yves Laplace dans la nouvelle collection Poche des éditions Métropolis qui contiennent pour l'instant 3 rééditions d'ouvrages récents. Les stades de foot accueillent plus de monde que les librairies, ou en tout cas ils font plus de bruit. Et il est peut-être qu'Yves Laplace est plus connu comme arbitre de football qu'écrivain, c'est ce que nous allons voir avec lui. Il commence à tiquer un petit peu. Bonjour Yves Laplace.
Désespéré, bonjour Jacques Manuel.
Non, c'est puisqu'on parle beaucoup de football actuellement, c'était en même temps une façon de faire le lien avec votre, qu'est-ce que l'on peut dire, un hobby, une occupation
oui,
à côté.
Oui, c'est le mot utilisé, honneur à la langue anglaise.
Alors, nous parlons de On, qui est donc cet ouvrage qui est donc réédité aux éditions Métropolis, dans l'édition Poche, mais qui est paru il y a maintenant, en 1992, c'est juste.
Tout à fait, aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Et le livre avait reçu l'année suivante le prix Michel Dantan. Et puis Michel Stroun a eu la très bonne idée, j'en suis heureux, de le republier dans une version que j'ai largement revue, corrigée, aménagée.
Alors le titre du livre, pour commencer par le début, est-ce qu'il correspond à une dictature de la majorité ou à une expression qui est censé représenter la norme, ce on, qui est d'un côté représente la religion, le Dieu suprême, enfin c'est le on qui nous dicte les comportements.
Oui, mais il y a beaucoup de ça. Donc le principe même du récit veut qu'une sorte de démiurge de Dieu invisible dans un temps futur gouverne le monde, on lui donne le nom de on. Alors on, c'est le pronom impersonnel et c'est étymologiquement l'homme, l'être humain, c'est homo. Étymologiquement c'est cela. C'est d'ailleurs très singulier de penser que l'homme comme espèce donne naissance, si je puis dire, au pronom impersonnel. C'est amusant. Et c'est comme ça. Ce sont les fantaisies de l'étymologie. Vous savez, c'est Roland Barthes qui disait que on était dans la langue l'instance de la censure. Quand on dit justement à un enfant ou à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, on t'avait bien dit que c'était défendu, on t'avait bien dit de ne pas faire ça. Ce n'est pas seulement la norme, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la langue et effectivement, peut-être parce que le sujet ici et le pronom sont impersonnels, eh bien ce « on » est d'autant plus étrangement menaçant. Il est à la fois anonyme, impersonnel et censurant, c'est vrai, oui. Il est singulier d'imaginer que dans un temps futur, qui n'est peut-être pas si éloigné de nous, une instance impersonnelle appelée on, qui n'a pas de visage, qui n'a pas vraiment de nom, eh bien, gouverne nos pensées et peut-être même notre inconscient. C'est en tout cas le propos de ce roman d'anticipation politique ou de science-fiction, si vous voulez.
Dans l'expression habituelle de ce pronom personnel, même pour les adultes, il correspond aussi à une sorte, plus qu'une norme, comme vous venez de le signaler, on ne fait pas ça, et déjà une structure dans laquelle on doit se comporter d'une certaine façon.
Ben oui, en effet, et par définition, le roman essaie toujours d'aller voir un petit peu au-delà de ce qui est toléré, admis, régulier, normé, normalisé, et il est donc toujours très intéressant dans un roman d'imaginer une société cadrée, paranoïaque, absolument terrible, mais qui au fond ne fait qu'aggraver un certain nombre des dispositifs auxquels nous sommes soumis tous les jours, parfois même sans le savoir. Et c'est précisément parce que nous ne le savons pas que c'est parfois terrifiant si on y regarde de près et si on va gratter derrière les apparences, ce qui est de toute façon la tâche souvent assez obscure et incomprise, je crois, de plus en plus incomprise d'ailleurs, des romanciers.
Alors c'est une création, une invention particulièrement fine d'avoir créé prise pronom personnel, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autorité contre laquelle se révolter, puisque c'est le « on » qui représente, que dire, hein, soit la dictature, soit la religion. Enfin, de toute façon, elle représente ce qu'auparavant, il y a longtemps, on appelait déjà le « Big Brother » ou dans 1984. Et c'est aussi ce que l'on a pu voir dans, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais dans une exposition récemment au Centre d'édition contemporaine, où déjà un petit peu, qui se situait 500 ans avant votre roman, puisque c'est en 2500 et vous êtes dans les années 3000.
Oh, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça.
Et il y avait déjà un ordinateur central qui contrôlait dans le monde entier les actes et les pensées de chacun.
L'idée de l'ordinateur central, l'idée du contrôle à partir justement d'un centre est au fond l'idée classique de la domination. En effet, le comble de la représentation dans ce domaine, c'est le 1984 de Orwell, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs, qui est un livre qui compte beaucoup pour moi. Mais c'est plutôt à ce très étrange écrivain soviétique et devenu assez rapidement anti-stalinien, qui était Eugène Zamiatine, que j'ai pensé, un écrivain « on ». Et Zamiatine, lui, ne dénonçait pas seulement un pouvoir totalitaire repéré, centré, que l'on pourrait symboliser aujourd'hui à travers, pourquoi pas, un ordinateur central ou autre chose. D'une certaine façon, il s'attaquait à autre chose. Déjà, à la dictature de la transparence. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. Le totalitarisme, entre guillemets, ou la dictature qui sont à l'œuvre dans On, ne sont pas immédiatement repérables, immédiatement centrés. Au contraire, ils sont diffus. Ils ont pris place, au fond, dans les esprits des uns et des autres. C'est plutôt à cette dictature de la transparence, de l'excès de vérité, si vous voulez, que je m'en prends. Il faudrait dire deux mots, d'ailleurs, du sujet du livre. Il est à la fois étrange et simple. C'est un procès qui a lieu. L'un des dignitaires de cette future église du lien universel, qui s'appelle Julien Trespard, Julien le Transparent littéralement, s'est écarté de la voie tracée. En clair, il est tombé amoureux. En clair aussi, il a un certain nombre de pensées, de fantasmes qui le renvoient à un univers passé qui pourrait ressembler quelque peu au nôtre, et aux idéaux, aux rêves, aux désirs que nous connaissons au XXe et au XXIe siècle. J'ai écrit le livre à la fin du XXe siècle et il anticipait peut-être un peu sur ce que nous laissait entrevoir le passage vers le troisième millénaire. Julien Trespard a donc dérapé, il semble bien qu'il soit tombé amoureux, il semble bien qu'il commence à douter des enseignements de l'Église du bien universel dont il est l'un des principaux dignitaires, et son procès a lieu et il s'explique avec une sorte de procureur qui s'appelle l'ange proscripto. Le livre est la description, si l'on veut, la relation verbal de ce procès. Voilà, donc c'est cela qui est au cœur du livre d'emblée.
Et vous en profitez pour expliquer aussi, par l'intermédiaire de Julien Trespard, comment le système a réussi à s'insérer dans l'inconscient des gens et à les gouverner. Pour arriver même à un moment où le temps n'a plus de signification pour ces gens. Ils n'existent pas d'hier, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait simplement que nous sommes ici aujourd'hui.
L'idée même de se pencher vers le passé est hérétique, puisque on a toujours été là de toute éternité. L'idée même qu'il ait pu y avoir quelque chose avant ce principe impersonnel, conduit Julien Trespard à s'écarter, encore une fois, du chemin ou de la voie tracée. Alors, quand je disais que c'était compliqué du point de vue du temps, c'est à la fois compliqué et simple. D'abord, le calendrier a changé, on a changé les ordres de mesure. Alors, est-ce qu'on est vraiment aux alentours du 34e siècle ou d'ailleurs du 26e? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le procès est supposé avoir lieu au 26e siècle. Mais comme on a changé les unités de mesure, on est peut-être plus près qu'on ne le croit, disons, du 20e ou du 21e siècle. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout ce procès est raconté par une sorte de narrateur lui-même invisible, qui est peut-être bien le véritable on du livre, et qui lui écrit le rapport, écrit en rapport au 34e siècle, en l'an 3333 à Caracas. Il faut savoir en effet qu'au départ, au principe même de cette église du lien universel, il y a les fameuses chaînes de destination, ces chaînes du bonheur que l'on recevait encore au cours du XXe siècle dans nos boîtes aux lettres. Maintenant, on les reçoit, je pense, par Internet, et qui nous intiment l'ordre de faire un certain nombre de choses. On nous demande, par exemple, simplement de recopier la chaîne ou de l'envoyer par mail à je ne sais combien de correspondants. On nous apprend que ceux qui ont fait cela jadis ont vu leurs souhaits se réaliser, ont gagné au loto, ont épousé Miss Univers ou que sais-je, et que ceux qui ne l'ont pas fait ont vu leur vie brisée, leur maison incendiée, leurs enfants abominablement assassinés ou que sais-je encore. Vous savez, ce sont de vieilles superstitions mais qui remontent comme ça à travers les temps. Et qui aujourd'hui prennent, on le sait bien, des visages nouveaux. Au principe de cette église, il y a ce roman, si vous voulez, des chaînes, et puis alors il y a une secte qui va s'emparer de ces chaînes de destination et qui va dicter aux êtres humains leur conduite. Les chaînes de destination, c'est quelque chose au fond d'assez préhistorique, d'assez sommaire, et on va perfectionner le système et on va faire en sorte que les gens se conforment à une sorte de roman qui leur a été intimé par ces chaînes de destination. Nous sommes beaucoup plus loin dans le temps quand le roman commence vraiment, mais Julien Trespart est l'héritier de ce système et il enquête, il se met à enquêter parce qu'au fond c'était un des théologiens, si vous voulez, de l'église du lien universel, cette église future. Il enquête sur ces chaînes et il y a une sorte de désaccord théologique entre Julien et les grands maîtres de son église. Pourquoi ? Parce qu'en enquêtant à travers ces chaînes de destination ou sur ces chaînes de destination et donc en enquêtant sur le XXe siècle, la chaîne de destination signalée au début du livre remonte à 1953-1954, eh bien il revient au XXe siècle et il retrouve toutes les questions qui au fond étaient encore les nôtres il n'y a pas si longtemps. Et cela même le fait s'écarter.
C'est une remise en question du pouvoir.
Oui, bien sûr.
Et qui pourrait se rapprocher de la remise en question qui est dans certaines religions, qui nous occupe beaucoup aussi en ce moment.
Mais oui.
Et ce phénomène des chaînes...
C'est un dissident, c'est la figure classique du dissident. Comme il y a des dissidents dans les romans de Zamiatine, lui-même un grand dissident antistalinien, comme il y en a d'une autre façon dans les romans d'Orwell, en effet, c'est vrai que ce sont pour moi, dans ce livre, qui est un livre tout à fait littéraire, mais qui s'inspire de ces grands modèles, ce sont les deux livres phares, parce qu'ils ne sont pas simplement des romans de divertissement ou de science-fiction, ils sont bien davantage, ils nous montrent peut-être, Zamiatine et Orwell, que la littérature, précisément, elle change notre rapport avec l'espace et avec le temps. Alors, dans un roman de science-fiction, par définition, l'espace et le temps sont soumis à des lois nouvelles, à des lois inventées. Et les plus grands romans de science-fiction sont, de ce point de vue-là, d'extraordinaires